Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. C'est un épisode un peu exceptionnel puisque là je suis en train d'enregistrer depuis le Québec pour une émission qui sera consacrée à l'UTHC, l'Ultra Trail Aricana, qui réunit plus de 3000 coureurs le temps d'un week-end du côté de Charlevoix au Québec et qui propose 10 courses du format 1 km jusqu'au format ultra de 125 km. C'est donc une très belle fête de la course en sentier que je vous propose de vivre dans cet épisode. J'ai le plaisir de recevoir Yvan Lheureux, que vous avez déjà croisé chez Course Épique, puisqu'il était venu nous parler dans l'épisode 78 de sa Transpyrénéa, une course folle de 900 km entre la Méditerranée et l'Atlantique. Et comme les bonnes surprises ne viennent jamais seules, j'ai le plaisir d'avoir un deuxième invité dans cet épisode, en l'occurrence une invitée, Alix Nobla, qui a intensifié sa pratique de la course à pied depuis un an et demi, qui a récemment participé à l'OCC, dans le cadre de l'UTMB et qui vient pour la première fois s'essayer au format 65 km dans le cadre de cette UTHC. J'ai donc recueilli les témoignages que vous allez entendre dans cet épisode quelques jours avant l'UTHC et je vous propose qu'on se retrouve dans notre prochain épisode pour avoir leur retour d'expérience sur cette belle aventure qui se profile. Mais comme d'habitude, je ne vous en dis pas plus. Mes invités vont vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Cap sur Aricana.
Bon, voilà Guillaume, on devrait être correct. Tu vas peut-être entendre un criquet, lui j'y peux rien, il est caché à la cave, puis il fait cuic-cuic, puis okay. Ça se peut que tu entendes un criquet. Bon, voilà.
Salut Yvan, comment vas-tu?
Ça va très bien Guillaume, merci. Et toi?
Ça va bien, écoute, c'est bientôt le week-end, voilà. Je suis de retour de l'UTMB qui a été une semaine très éprouvante, mais surtout très belle et très intense, donc je suis un homme heureux.
Ouais, ben, incroyable fin de semaine, j'ai suivi de loin, là, ça a été épique, je dirais.
Ouais, ça a été un duel, notamment sur l'UTMB, toutes les courses ont été très belles et il y a vraiment eu beaucoup de spectacles et beaucoup d'émotions entre les premiers et les derniers, il y a vraiment eu des choses assez folles et c'est vrai que l'épilogue avec l'UTMB a été exceptionnel avec le groupe de tête qui a été quand même à 5 pendant un petit moment et puis ce duel final entre Kylian et Mathieu a été vraiment haletant, donc c'était une super semaine, j'ai pris beaucoup de plaisir. Yvan, je suis très heureux qu'on se recroise aujourd'hui. Je voulais savoir comment tu allais. On a eu l'occasion d'échanger dans l'épisode 78 de Course Épique où tu partageais avec nous ta Transpyrénéa. On peut dire que ton agenda a été très chargé de ce que j'ai pu voir depuis. Je pense aux courses que tu as pu faire récemment, mais aussi au projet que tu organises qui s'appelle le Défi Everest et qui va se tenir dans quelques jours désormais. Donc l'occasion pour moi de te remercier de prendre quelques minutes pour échanger là dans Course Épique. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu tes dernières courses et puis ce qui se profile là du 16 au 18 septembre?
Oui, écoute, le 16 au 18 septembre, c'est vraiment l'achèvement d'une année de travail pour toute l'équipe du Défi Everest. C'est le 10e anniversaire, on est post-pandémie, c'est une édition qui a été quand même difficile à organiser, la reprise a été plus compliquée qu'on pensait, mais on annonce une édition extrêmement festive et participative. Écoute, seulement le vendredi, on a toutes les écoles de la MRC au niveau du primaire qui viennent faire un tour, donc on va avoir 1600 jeunes qui vont venir participer à une activité des Fièvres pour ouvrir la fin de semaine. Marlène Côté, qui est directrice des événements Aricana, va être conférencière pour un petit peu motiver les jeunes, leur donner le tempo. Et puis ensuite, les jeunes vont se lancer dans la côte et on parle d'un événement qui, au cours de la fin de semaine, dans tous les modules, va avoir plus de 2200-2300 personnes. Donc, dans les modules par équipe, les jeunes, les modules de dépassement où les gens vont faire 48 heures dans la côte au Macadam Ultra et essayer de faire un ou deux Everest en dénivelé. Donc, c'est vraiment une fin de semaine exceptionnelle qui s'annonce là, pour le Défi Everest là, du 16 au 18 septembre.
Est-ce que tu peux nous ordonner le principe dans les grandes lignes? En gros, l'idée, c'est de parcourir collectivement l'équivalent de la hauteur du mont Everest.
Oui, ben c'est ça. Normalement, c'est le défi se fait en équipe selon la condition physique des gens, de 5 à 20 personnes. Et les gens se répartissent les montées pour faire les 8848 mètres de dénivelé pour atteindre la hauteur de l'Everest. Et c'est un événement qui est caritatif. On a ordonné à 400 organismes jeunesse au Québec plus de 1,5 million dans les premières éditions. On est à la 10e. Donc, c'est vraiment une réussite et une fierté collective au Québec que cet événement-là qui fait partager les gens au niveau de leur communauté dans le don, mais aussi maintenir une bonne condition physique à chaque jour de l'année par la marche en dénivelé urbain. Donc, c'est vraiment facile, accessible. Puis, on vise l'année prochaine peut-être un retour là, vers une expansion un petit peu partout au Québec qu'on avait avant la pandémie, où est-ce qu'on avait 6 villes qui participaient au Québec.
Yvan, pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu ton épisode dans lequel tu racontais ton aventure sur la Transpyrénée et tu prends en profiter pour te présenter, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qui tu es, ce que tu fais dans la vie, puis quelles ont été les courses les plus emblématiques aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant en tout cas dans ton parcours sportif, il y en a un certain nombre. Est-ce que tu peux nous citer peut-être les courses qui ont aussi une saveur un peu particulière dans ton cœur?
Ouais, ben écoute, moi, je plais à dire que je suis pharmacien, chercheur de formation, acupuncteur, praticien de médecine chinoise de déformation. Je suis allé étudier en Chine durant plusieurs années pour apprendre les techniques de la médecine chinoise que j'applique beaucoup aujourd'hui au niveau des blessures, travail des sportifs, application vraiment spécifique au niveau de sport de pointe, là, comme le patin, la course, ces choses-là. Donc, c'est vraiment ce qui me fait vibrer dans la vie. Et accessoirement, j'aime participer dans des activités de bénévolat. Et je cours seulement depuis 8 ans. La course, ça a été une révélation pour moi dans la vie. C'est peut-être un moyen au début de me maintenir en forme, de faire du cardio, comme je pratique les arts martiaux depuis 40 ans. Et j'ai commencé par une petite promenade de santé qui s'appelle le Bromont Ultra. À 3 mois d'avis, j'ai décidé que j'allais courir et que j'allais courir 160 km. Ça a terminé dans des conditions, on va dire, dantesques. Ça s'est pas super bien fini, mais j'ai fini. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu la piqûre. Et j'aime à penser que je représente vraiment monsieur, madame, tout le monde dans la course. Donc, je finis toujours à peu près en mid-pack. Je suis jamais dans les premiers. Je suis un papa, un amoureux. Donc, je suis pas la personne qui a le plus de temps au monde avec la pratique médicale pour m'entraîner. Mais j'aime repousser les limites. J'aime le long de très long. Donc, des courses comme l'Euphoria, 233 km qui avait 20 000 mètres de dénivelé positif en terrain d'aventure en 4 jours jusqu'à la Transpyrénée, 900 km, le Tour des Géants, la Spine Race en Angleterre. Donc, des courses qui ont un rythme lent, où est-ce que courir, marcher devient une méditation en mouvement et où est-ce que tu dois gérer vraiment beaucoup de choses, dont ton matériel, ton orientation. C'est vraiment ce que je préfère. Et puis, aussi des courses coup de cœur, comme ce que j'appelle la grand-messe du Québec, qui est l'Ultra Trail Aricana, qui sont vraiment des incontournables pour rencontrer la communauté de trail, l'esprit trail au Québec, mais aussi parmi les plus beaux sentiers qu'on a à offrir ici au Québec.
Yvan, tu as participé récemment, en tout cas tu avais inscrit sur ton plan de marche la participation à un format assez atypique qui s'appelle le Triple Crown, qui démarrait au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, avec sa première étape au lac Tao. Est-ce que tu peux nous raconter quel est ce projet et puis comment il s'est passé plus spécifiquement pour toi?
Ouais, ou comment il ne s'est pas passé en fait. La Triple Crown, c'est une série de courses, c'est les 200 miles aux États-Unis, donc Lac Tao, Bigfoot et Moab, qui sont quand même connus mondialement. Et je m'étais inscrit là-dessus en me cherchant un défi qui était plus en Amérique du Nord cette année. Et j'avais une préparation avec mon coach Charles Castonguay, là, exceptionnel pour aller à Tao. On avait même travaillé avec les machines en altitude, tout ça. Et j'étais fait un prêt quand je suis arrivé. Et finalement, ça s'est pas déroulé comme on voulait. J'ai eu un abandon à 140 km. Aucun bobo, aucune ampoule, mais incapacité à respirer. Et ça a malheureusement été le cas de 48% des coureurs. Donc, l'altitude, la poussière volcanique, des conditions très froides, très sèches. Ça me dérangeait pas. Mais surtout le pollen des grands pins. Donc, c'est la première année que l'édition se tenait au mois de juin au lieu du mois de septembre. Et il y a eu des difficultés respiratoires, des allergies là, comme il n'y avait jamais vu, un taux d'abandon record. Et malheureusement, j'ai été contraint à l'abandon. Là, je n'étais plus capable de respirer ni de m'alimenter. C'est une première pour moi. Mais écoute, c'est toujours un gros revers que tu dois travailler fort pour trouver un petit côté lumineux à ça quand tu t'inscris sur des courses qui sont un format dans lequel tu es habitué, des distances qui pour toi sont confortables. Donc, ça m'a beaucoup questionné à savoir qu'est-ce que j'allais faire pour la suite. Et je me suis dit qu'habituellement, quand je me présentais et que je m'inscrivais à quelque chose, j'y allais. Donc, j'ai pris mes 6 semaines de repos, seulement 75 km de marche et de course au compteur en 6 semaines, qui n'est pas beaucoup. Et je me suis présenté sur la ligne de Bigfoot, qui est la plus difficile des 3 courses, il y a exactement de cela 2 semaines, donc 3 semaines avant Aricana. Et écoute, j'ai parcouru les 345 km sans aucun bobo, aucun problème. Terminé 62e sur 210 participants dans des conditions de chaleur et de sécheresse assez exceptionnelles. Donc, peut-être de dire aux gens que des fois, on peut avoir la meilleure préparation du monde, le meilleur plan de match et ça se déroule pas comme on veut. Et une autre fois, on y va ce que j'appelle la méthode cowboy, là, à la va comme je te pousse, et puis finalement, ça passe très, très bien. Donc, c'est un petit peu le plan de match. Là, il me reste Moab en octobre, là, que normalement, je vais être sur la ligne de départ, et entre les deux, il y a Ricana que je veux vivre avec un grand ami qui s'appelle Franck L'Aigle, avec lequel j'ai fait le Marathon des Sables. Donc, Franck m'avait proposé de faire cette course-là avec lui, de l'accompagner. Il a accepté de le faire à un rythme quand même très léger, parce que moi, je suis en deux grosses courses de 200 miles. Donc, c'est vraiment une histoire d'amitié, une histoire de partage, d'aller refaire Arikana avec un grand ami, de vivre ce parcours-là qui est exceptionnel, et puis de rencontrer la communauté trail cette année, ça va être fantastique.
Alors, on en a parlé juste avant, le petit bruit que nos auditeurs entendent, c'est un criquet, hein, c'est ça? Un petit criquet qui se terre dans ta maison?
Ouais, c'est en plein ça. Je suis chez ma copine et il y a une armée de criquets qui fait des petits bruits à l'arrière, donc faut pas s'en faire avec ça. On peut limiter bien des choses dans la vie, mais on n'arrête pas le criquet.
On est très content qu'il participe à l'épisode avec nous. Yvan, tu viens de le dire, tu vas participer cette année à nouveau à l'Ultra Trail Arikana. C'est une course à laquelle tu avais déjà pris part en 2018 sur le format 125 km. Tu avais mis 23h30 à l'époque pour boucler la course. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement de cette Arikana et qu'est-ce qui te mène à nouveau à elle cette année?
Ben, je pense qu'Arikana, c'est, comme je te disais tantôt, c'est la grande messe québécoise, mais c'est surtout le parcours par excellence au Québec pour rencontrer les forêts du nord du Québec. Donc, des parcours qui sont, pour moi, taillés sur mesure. Donc, pas nécessairement toujours très roulants, mais très, très, très techniques. Beaucoup de racines, beaucoup de roches. Si les conditions météo sont humides, ça peut être très, très, très boueux. Donc, c'est un parcours qui, même s'il ne fait pas le 100 miles classique, qui est 125 km, qui est très technique, très complexe, et où est-ce qu'on a la chance de rencontrer vraiment la plupart de la communauté de trail qui est là. Et moi, quand je l'avais fait en 2018, à l'invitation de mon amie Marlène, qui est directrice, les gens sourient toujours quand je consomme, mais j'avais fait 27 km dans l'été. Et Marlène m'avait invité 10 jours avant l'activité. Et j'ai dit, pourquoi pas, tu sais, j'ai aucun entraînement, allons-y. Donc, en 2018, j'ai marché Arikana. Faut dire que je suis un bon marcheur, je marche rapidement, mais j'ai vraiment power hiké Arikana du début à la fin, en arrêtant quelques minutes aux stations d'aide, en prenant un petit peu de nourriture, puis en continuant. Donc, c'est un parcours qui, si on se donne la chance de ralentir son rythme, d'apprécier le paysage, la forêt, la nature, c'est un parcours qui est accessible à tout le monde si on décide d'y aller un petit peu plus lentement. Puis la preuve, c'est que je l'ai marché de 0 à 125 km en 2018, puis j'ai réussi à le réaliser. Donc, je pense que c'est important de concevoir pour les gens que parfois on a des objectifs de vitesse, de temps ou de position. Moi, je suis totalement compétitif dans mon approche de la course, tu le sais, mais c'est un parcours qui est quand même très, très, très accessible et très beau à Arikana. Moi, c'est ce qui me fait y retourner cette année, en plus de participer avec mon grand ami Franck.
Alors, j'étais un peu pris de court tout à l'heure au début de nos échanges, avant que je lance l'enregistrement. Je te proposais de suivre ton aventure sur cette Ultra Trail Arikana. Tu m'as répondu favorablement, donc je m'en réjouis, mais voilà, l'idée, c'est qu'on vive au plus près avec toi cette aventure, au fil de la course, et puis de faire un bilan à l'arrivée, j'espère, dans les temps, et puis surtout heureux et en bonne forme, pour que tu me racontes un peu comment tu as vécu cette course. Est-ce que tu es toujours partant?
Ben oui, je suis toujours partant, mais ce qu'il y a de très, très drôle, c'est sûr qu'il y a le site Internet, mais je me suis inscrit il y a seulement, je pense, 10 jours, complètement incognito. Je pensais pas. Moi, j'allais pour faire la course avec Franck, tout simplement, puis rencontrer les gens, puis profiter. Et voilà.
J'ai des taupes dans l'organisation.
On ne passe pas incognito sur Arikana.
Mais non, quand on s'appelle Yvan Lheureux, on peut pas passer incognito, c'est pas possible.
Ouais, ben c'est comme je te dis, moi j'aime à penser que je représente un peu les gens qui sont les coureurs du dimanche, les mid-pack, qui décident de s'engager sur des aventures des fois plus grandes qu'eux et qui s'aperçoivent qu'ils sont capables de réaliser ces choses-là en y allant plus doucement et puis en s'appuyant sur des gens autour, sur de l'expérience, sur le plaisir d'être à l'extérieur et du trail. Donc ça va me faire plaisir de partager ça avec toi.
Ben, c'est gentil, je me ferai aussi discret qu'un criquet, d'accord, avec juste un petit micro qui traîne, mais un criquet à micro, si ça te va.
Super.
Yvan, sur cette course, il y a une dimension solidaire très forte qui est notamment, qui s'est construite autour de la lutte contre la sclérose en plaques et obtenir des financements pour pouvoir aider à lutter contre la maladie. J'imagine que voilà, toi, tu es quelqu'un de très engagé. Cette cause, elle résonne aussi forcément en toi.
Ben oui, écoute, c'est des causes de la santé. Moi, je me dis toujours, quand j'ai commencé à courir, une bonne amie qui était orthopédiste, Emmanuelle Dudon, me disait toujours, quand tu es sur une course et ça va mal, rappelle-toi que tu as choisi d'être là. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui ont un cancer des os, qui souffrent le martyr, et eux, ils n'ont pas choisi ça. Donc, toi, tout ce que tu as à faire, c'est te rendre à la prochaine station d'aide, de continuer à avancer, te rappeler que tu as fait un choix et que les mauvais moments, ils vont passer. Donc, je pense qu'on a une chance incroyable de pouvoir participer à ces événements-là. Parfois, on a un coup de mou, on a un coup de dur. Mais quand on se rappelle le chemin qu'on a fait pour arriver là et que certaines personnes auraient aimé être à notre place, bien, je pense que ça peut nous motiver à aller plus loin. Puis quand on voit qu'Aricana appuie une cause comme la sclérose en plaques qui touche des gens qui n'ont pas demandé à être malades, qui ont une condition chronique, dégénérative, bien, moi, ça me touche beaucoup. Puis ça me motive toujours à avancer plus loin quand je pense à ces gens-là et à la chance que j'ai d'être en forme puis de pouvoir participer à ces événements-là.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur la course? Tu l'as dit, c'est lever le nez, profiter, prendre le temps. C'est quoi les ingrédients pour toi pour vivre une course idéale? Qu'est-ce qu'il faudrait caler cette UTHC?
Pour moi, cette UTHC, c'est sûr que du beau temps, ça va plaire à tout le monde, mais je pense que c'est vraiment, je vais le vivre sur une saveur d'amitié, sur un entre-course, parce que je suis dans 6 semaines de repos entre 2 courses de 350-400 km chacune. Donc, pour moi, c'est vraiment, je viens faire ma période de, excuse-moi le mot anglais, taper, avec les gens du Québec à ce moment-là. Je pense le partage, la communauté, le beau temps, tout va y être comme à chaque année. Aricana, c'est toujours une grande édition à chaque année.
Tu auras, Yvan, tu ne le sais pas, je te la prends là, comme partenaire d'épisode, puisque l'idée, c'est que je suive deux personnes. En l'occurrence, ta compagnon serait Alix, qui est la compagne de Mathieu Blanchard, qui est lui-même président d'honneur de la 11e édition de cette UTHC. Est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de rencontrer Alix? Vous étiez à quelques tentes d'écart, notamment pendant le Marathon des Sables. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rencontrer déjà?
Ben oui, puis c'est vraiment drôle, tu me l'annonces, je vais être content d'avoir Alix, puis écoute, elle fait des superbes podcasts, puis des super coms. On avait joué à saute-mouton, en fait, sur le Marathon des Sables, on avait quand même passé pas mal de temps à jaser, et puis moi, j'étais arrivé en arrière d'elle sur le Marathon des Sables, puis j'avais vu qu'elle avait une petite dichotomie au niveau de son pas de course, puis c'est en jasant avec elle que je me suis aperçu que, ah, t'es Alix, ah, t'es Yvan, ah, t'es la copine de Mathieu, fait qu'on s'était mis à jaser sur le Marathon des Sables, fait que ça va être super agréable de la revoir, puis de peut-être partager un bout de chemin avec elle.
Alors, elle sera sur le format un peu plus court, elle sera sur le 65, mais je ne doute pas qu'il y aura des moments où vous allez pouvoir échanger. Je crois que tu vas peut-être sensiblement arriver quand elle part ou inversement. C'est quelque chose de cet ordre-là, mais j'imagine qu'il y aura des plein de moments de passage et d'échange ensemble, c'est certain. Est-ce que tu auras un petit mot pour elle si elle écoute cet épisode en amont de la course? Est-ce que tu veux lui adresser un message particulier à quelques heures du départ?
Ben ouais, ben écoute, Alix, c'est quelqu'un de rayonnant, c'est un rayon de soleil, donc je lui souhaite toute la belle vibe, toute l'énergie possible dans cette course-là, et puis de profiter, puis de faire profiter les gens aussi de sa belle énergie. Écoute, pour l'avoir vu sur le Marathon des Sables, c'est une personne communicative, puis qui peut toucher un peu tout le monde, donc voilà, je pense que ça va être un gros plus. Je suis vraiment content de savoir qu'elle va être là, en fait, là, c'est... J'étais pas au courant, comme je t'ai dit, moi, j'allais là en sous-marin, et j'apprends plein de choses aujourd'hui.
À noter, je ne sais pas si tu connais, Ludovic Collet, c'est un nom qui te parle, on l'appelle aussi la voix du trail, c'est l'animateur emblématique de l'UTMB, du Marathon du Mont-Blanc et puis de la Diagonale des Fous. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce personnage qui sera là aussi pour la première fois au micro de l'UTHC. Donc voilà, ça va être, il y a du beau monde en tout cas, que ce soit d'un point de vue athlète, il y a un certain nombre d'athlètes élites aussi qui sont présents, Mathieu qui est président, des belles personnes comme toi qui sont sur la ligne de départ et puis Ludo Collet qui vient en plus animer les débats et c'est passionnant de course qui se profile, donc je pense qu'on va avoir un cocktail assez détonnant de plaisir. Je suis vraiment très heureux, moi je vais aller sauter dans un avion dans pas très longtemps, si j'ai pas de mauvaise surprise administrative, je serai bien au Québec dans quelques jours et puis je me réjouis qu'on puisse se retrouver du côté de mon grand fond pour vivre ensemble ta belle aventure.
C'est vraiment génial. Merci beaucoup Guillaume.
Merci Yvan, à très vite.
À très vite.
Salut Alix, comment ça va?
Ça va super, Guillaume, et toi?
Tu es où aujourd'hui?
Bien, écoute, je suis dans le sud de la France. Je suis chez mes parents à Aubagne. Je me remets encore doucement de mes émotions vécues il y a plus d'une semaine maintenant sur l'UTMB 2022. Et ça se passe plutôt bien.
Alix, je voulais partager avec toi un dicton très célèbre, un dicton du 6 septembre, qui est donc le jour d'enregistrement de cet épisode. À la Saint-Bertrand, double tes vêtements. Est-ce que c'est ton projet à l'heure de ton départ imminent pour le Québec ou tu comptes sur le fameux été indien canadien pour prolonger l'été et rester quand même relativement léger en termes d'habits?
Eh bien écoute, en toute honnêteté, je n'ai toujours pas pris de décision pour faire ma valise. C'est toujours quelque chose que je fais au dernier moment. Je suis allée au Québec l'année dernière, période de janvier à décembre à... à février. Et là, il était sûr pour moi de prendre des vêtements chauds. Mais là, je suis dans le doute total. Donc, j'ai envoyé à mes amis qui sont sur place, Nico Dan et Marianne Hogan. Je leur ai posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je prends? Et puis, écoute, ce sera plutôt... ce sera plutôt léger. Il a l'air de faire quand même relativement humide. Une petite tuque quand même. Hein, c'est dans le matériel obligatoire pour la suite des événements.
Pas les tuques qui se mangent, les tuques qu'on se met sur la tête.
Exactement.
C'est important de préciser, oui.
Et non, pas de vêtements tant chauds, mais coupe-vent et imperméable.
Très bien. Bon, t'as partiellement honoré la Saint-Bertrand. Alix, je suis super heureux qu'on puisse échanger aujourd'hui. On a passé pas mal de temps ensemble ces derniers temps avec l'enregistrement final de l'épisode de Dans mon bain qui était à l'occasion de l'UTMB de Mathieu Blanchard, ton compagnon. J'imagine que l'adrénaline et les émotions sont redescendues depuis une dizaine de jours. C'est encore... tout frais. Comment est-ce que tu vis aujourd'hui cette expérience à froid? Là, on est un peu plus de recul, on est moins dans l'émotion de l'instant. Qu'est-ce qui te reste de ces moments-là et de cette essoreuse de sentiments incroyables, cette vingtaine d'heures un peu moins à vivre intensément cette UTMB?
C'était vraiment très fort. Je reprends une fois ce que Mathieu a dit, c'est que je pense pas que l'être humain il est fait pour vivre autant d'émotions aussi fortes, aussi riches. J'aime cet événement en dehors de la performance de Mathieu. J'aime l'événement de l'UTMB parce que c'est là où tout le monde se retrouve, bien qu'on soit tous aux quatre coins du monde, aux quatre coins de la France. C'est l'événement qui réunit tous les athlètes, toutes les teams, toutes les marques, tous les partenaires, et c'est un moment, c'est un grand moment de sport, mais c'est aussi un grand moment de fête. Et bah, d'un coup, quand tu rentres chez toi, t'entends les mouches voler, tu dis, ça l'a fait à la fois du bien, et puis à la fois, tu dis, c'était vraiment intense ce qu'on a vécu. Donc là, on en profite vraiment pour se reposer. J'en profite aussi pour me reposer parce que j'ai pas été au top de ma forme ces derniers temps. Et non, ça fait du bien aussi de retrouver ma petite Provence tranquille, très, très chaude comparée en altitude. Mais non, ça fait du bien.
On va parler un tout petit peu plus tard de la course à laquelle toi, tu as participé. Si on en revient plus particulièrement ton rôle d'assistance sur l'UTMB de Mathieu, quels enseignements tu as tiré, toi, de cette édition? Est-ce que tu as appris des nouvelles choses? Est-ce que tu as vécu des situations qui étaient inédites? Comment tu es ressorti finalement avec cette casquette-là, en tout cas d'assistance sur cette UTMB?
Je ne dirais pas que j'ai appris de nouvelles choses parce que... j'ai été donc l'équipe de soutien de Mathieu. J'étais, en fait, pour moi, il y a eu des choses qui se sont confirmées. J'ai trouvé que Mathieu, cette année, il avait du mal à avoir confiance en lui sur les courses. Il avait du mal à aller chercher loin dans ses retranchements. Et moi, j'étais sûre et certaine. Au-delà d'être sa compagne, je le vois en tant que coach sportif. Et puis, je le vois en tant que, bah oui, aussi compagne, bien sûr. Mais il était capable de faire ça. Il était capable d'aller chercher tellement loin dans ses ressources, et je suis contente qu'aujourd'hui on ait pu confirmer la place de Mathieu dans notre sport, dans l'ultra trail. Et oui, effectivement, j'ai vécu des situations qui ont été inédites. Je repense toujours à cette photo qui a fait, je pense, le tour de la toile, cette photo du ravitaillement de Trian, où Mathieu arrive, a l'air bien, et puis en fait il me regarde pas, il y a pas de contact visuel entre nous. Et puis, en fait, j'entends que ça renifle sous la casquette. Et puis là, je m'aperçois qu'en fait, il est en larmes. Par la suite, j'apprends en discutant avec lui que c'était parce que dans sa tête, tout commençait à être beaucoup trop fort, beaucoup trop intense. Et dans son corps, dans les sensations, il avait peur d'exploser, en fait. Et en fait, quand il arrive à Trian, il pleure parce qu'il se dit, je suis en train de passer à côté de mon UTMB, je suis en train de faire une énorme bêtise. Et puis là, en fait, j'ai remarqué aussi que, les mots, ils peuvent avoir un impact, mais genre phénoménal, quoi. Je lui ai dit deux mots, j'ai eu un contact, là, et c'est ça qui a fait qu'on s'est à deux transcendés et que j'ai fait en sorte qu'il se requinque et puis qu'il aille chercher encore plus loin. Et puis, c'était une situation inédite pour moi. C'était la première fois qu'il me faisait ça sur un ultra. Mais je croyais tellement en lui, je savais qu'il pouvait aller encore plus loin, donc aucune hésitation. Donc, beaucoup d'émotions, quelques nouveautés et puis une grande confirmation.
C'est toujours très difficile, mais si avec une image qui te restait en tête de cette UTMB, est-ce que c'est l'arrivée ou est-ce que ça peut être justement ce moment à Trian au ravitaillement? Enfin, quel a été pour toi le moment le plus riche en émotions? C'est forcément quand il arrive en moins de 20 heures?
Bizarrement, non. Alors, oui, non, c'est pas l'arrivée. C'est pas l'arrivée qui m'a le plus marqué. L'arrivée, oui, j'étais très fière. Ce qui m'a le plus transcendé, c'est, il y a deux ravitaillements. Il y a Trian, et puis il y a le dernier, Valorcine. Mmh. Il me semble, dans les noms, j'ai encore un peu du mal. Ouais. Mais, parce que Trian, j'ai trouvé Mathieu dans un état second. Il fallait que je le requinque. Et puis Valorcine, il avait un regard de tueur. Et c'était le dernier ravitaillement pour moi, le dernier ravitaillement assisté. Puis j'ai relâché vraiment toute la pression. Je suis tombée en larmes. J'étais trop contente. Et puis à la fois, voilà, il y a tout qui redescendait. Donc, ces deux moments très forts dans la course pour moi, c'est Trian, Valorcine. L'arrivée, bien évidemment que j'en suis très fière, mais c'est encore des émotions différentes.
On va parler de ta course aussi, Alix, puisque tu as participé à l'UTMB cette année. Tu as participé à l'OCC, qui est une course de 55 km et 3500 mètres de D+. C'est quand même un beau petit morceau. L'expérience, elle n'a pas été un long fleuve tranquille pour toi, mais ça ne t'a pas empêché d'aller au bout et de rallier la ligne d'arrivée, ce qui est quand même l'objectif principal quand on est sur une ligne de départ. Est-ce que tu peux nous raconter cette course et comment tu l'as vécue, et là aussi, quels enseignements tu as pu en tirer pour la suite?
Eh bien, écoute, c'était ma première aussi longue course, que ce soit en distance et en dénivelé positif. Mathieu m'avait prévenu que ça allait être une course compliquée, et puis je n'en doutais pas, hein, clairement, quand j'ai vu le profil. Maintenant, je suis encore quelqu'un qui ne sait pas se gérer, qui se laisse un petit peu avoir par ses émotions, par le challenge, par l'engouement. Je fais encore partie de ces gens au passage qui partent vite, tu sais, au départ, qui se laissent partir beaucoup trop vite, et puis qu'au bout de 10 bornes, je croise Mathieu qui me dit « Waouh, t'as réussi à manger solide, tu transpires beaucoup, etc. » Et je dis « Non, ça passe plus, je suis à fond. » Et effectivement, par la suite, j'ai eu un petit coup de mou 15e kilomètre, mais je continuais tranquillement ma course. Je me suis dit « C'est pas grave, il reste encore 40 bornes, donc on s'accroche tranquille. » Et puis par la suite, ça s'est bien passé, et arrivé en haut du col de Balme, en fait, je mange tranquillement. Puis là, une grosse portion de descente, d'ailleurs, qui est la même que la MCC, la plus petite, la moyenne, on va dire, course de l'UTMB.
C'est là où je me suis arrêtée, à Balme, en l'occurrence, tu vois, j'ai pas vu cette descente. C'est là où j'ai droppé mon dossard.
Exactement. Et cette descente, je l'adore. Et puis là, en fait, je mange tranquillement, je mange peut-être un peu trop. Et en fait, je pars, pour moi, la descente, c'est vraiment une partie de plaisir, j'adore ça, puis je descends souvent à fond. Puis là, je croise un ami à moi qui est journaliste et qui me dit « Oh, tu vas croiser ton ami qui est parti une demi-heure avant toi dans le sas d'avant, vas-y à fond, Alix. » Et là, d'un coup, idiotie.
Emballement.
J'ai posé mon cerveau et là, je suis descendue à fond, sans boire, sans manger, pendant un peu moins de 10 km. Et puis, arrivé en bas à Argentière, j'ai croisé mes parents qui étaient sur le bord du chemin. Et puis, j'ai vu les vidéos. Effectivement, c'était pas fou. j'ai eu envie de rendre. J'ai eu des problèmes gastriques. Et puis, à Argentière, c'était la tête dans le seau au ravito. J'ai essayé de remanger. Puis là, j'ai eu un gros coup de mou. Et puis, d'après le physio...
La tête au vent et tête dans le seau, c'est deux écoles.
Exactement. Exactement, et donc à tête dans le seau, ça s'est pas très bien passé. Puis en fait, j'ai fait ce qu'on appelle communément une ischémie, c'est-à-dire que mes organes, ils étaient mal irrigués, quoi. Parce que je suis descendue tellement fort, et puis il n'y a plus rien qui passait après ça, quoi. Ni l'eau, donc ni liquide, ni solide. Et puis inconsciemment, donc j'ai des photos de ma tête avant-après, ça fait vraiment très peur, j'étais ultra déshydratée.
Très creusée, moi j'ai vu la photo en question, t'as perdu 4 kilos, c'est ça, tu disais, d'eau?
Ouais. J'ai perdu, plus de 4 kilos. Je me suis pesée, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai mis longtemps après ça à me réhydrater d'ailleurs. Et puis la dernière montée, en fait, il me restait au final, donc une montée, une descente, pour une portion de 9 kilomètres, j'ai dû mettre 3 heures. C'était le bout du monde, mais pour moi, par contre, c'était strictement impossible de dropper, impossible d'arrêter. Surtout, le problème, et ce qui est bien aussi, c'est que quand les gens te reconnaissent dû à ta médiatisation, ils te croisent et disent « Allez la guerrière, allez, tu peux le faire », etc. Et en fait, tu peux pas abandonner. Tu peux pas dire « Non, c'est bon, je lâche l'affaire ». Non, pas du tout. Donc, je suis allée jusqu'au bout, quoi.
Tu évoquais à l'arrivée un fort sentiment de déception après la course, pour toi aussi, pour les tiens et tous ceux qui témoignent leur affection et leurs encouragements. Est-ce que c'est un sentiment qui prime encore aujourd'hui, ou est-ce que la satisfaction et puis l'accomplissement de cette réussite, elle a pris le dessus avec du recul aujourd'hui?
Bah oui, je me dis que je l'ai fait, mais c'est vrai que je suis déçue parce que j'aurais pu faire une course. Moi, j'aime pas faire des courses et arriver dans un état comme lequel je suis arrivée à l'OCC, clairement. Surtout que c'était une super course, que j'avais pris du plaisir sur le trois quarts de la course et sur le trois quarts du parcours. Et pour moi, enfin, arriver dans cet état-là, c'est pas ça, c'est pas à la hauteur de tous les entraînements. Surtout que, bah, en fait, le lendemain, je me suis réveillée, aucune courbature, j'étais physiquement bien, mais mon ventre, par contre, il a mis vraiment un petit moment à s'en remettre. Mais non, j'avais le volume d'entraînement dans les jambes pour le faire, j'aurais jamais dû arriver dans cet état-là. C'était une mauvaise gestion. Je suis déçue de ne pas avoir couru intelligemment, en fait. Mais c'est pas grave, j'apprends. J'apprends, puis j'aurai l'occasion de remettre en place d'autres petites stratégies à mon niveau, hein, quand je parle de stratégie, juste pour voilà, une question logistique de hydratation et puis de nutrition aussi. Voilà, donc je suis pas trop déçue, mais je vais pas crier sur les toits que je suis fière de moi parce que je suis finisseur de cette course parce que elle reflète pas mon niveau actuel, mon état de forme actuel.
Je te propose, Alix, d'en monter un tout petit peu le temps. Tu as un profil très sportif par nature. Est-ce que tu peux juste nous expliquer de quelle façon la course à pied a progressivement pris de la place dans ta vie? À quel moment tu t'es dit que tu allais t'y consacrer un peu plus pleinement? Est-ce que ça a été un coup de cœur, une révélation? Est-ce que ça a été une évolution progressive vers la discipline?
Bien sûr, en fait, moi, à la base, je suis donc issue du CrossFit. Je suis coach de CrossFit depuis 2017. Et puis, donc, ça faisait peut-être, avant 2017, ça faisait 3-4 ans que je pratiquais le CrossFit. Ensuite, donc, j'ai été coach donc depuis 2017. En 2019, suite à un casting, bah, j'ai fini dans une émission de télévisée qui s'appelle Koh-Lanta. Et puis, suite à Koh-Lanta, en fait, je me suis un peu éloignée progressivement en fait du CrossFit. J'ai fait la connaissance lors de ma première aventure de Mathieu qui aujourd'hui court très vite et très longtemps. Et en fait c'est un peu lui qui m'a mis un petit peu le goût du trail. Je me souviendrai toujours de notre premier footing ensemble. Ça a duré pas plus de 20 minutes. J'étais à l'agonie. Et puis on courait vraiment très lentement. Et là je me suis dit ok c'est bien le CrossFit. On est censé savoir tout faire et être bon partout. Et en fait je suis très nulle en course à pied. J'avais fait des Spartan Race sur lesquels j'avais réussi à me qualifier, mais c'était des formats très courts, 5 km, très explosifs, donc typiquement crossfitter. Et tu me faisais courir plus de 5 km, pour moi c'était un chemin de croix. Donc il s'est passé ça, donc 2019, premier Koh-Lanta, je rencontre Mathieu. 2020 ou 2021, je retourne faire un Koh-Lanta. Alors, 2020, en août 2020, voilà ce qui se passe surtout en août 2020, pardon. C'est que ma petite sœur, malheureusement, nous quitte, elle met fin à ses jours. Et en fait, je pense que l'ambiance dans laquelle j'étais, quand je l'ai appris, quand ça s'est passé, j'étais dans une salle de CrossFit, j'étais enfermée, et puis je sais pas, en fait, du jour au lendemain, en fait, impossible de remettre un pied dans une salle de CrossFit. Et puis j'ai commencé à marcher juste, marcher, courir en descente, et puis marcher la plupart du temps sur le plat, en montée. Et puis en fait, j'ai pris goût petit à petit à la course à pied. Et je suis repartie pour une aventure je crois, en 2021. Une aventure de Koh-Lanta, donc je m'étais mis progressivement à la course à pied. Encore une seconde aventure de Koh-Lanta. Et puis en 2021, donc en avril-mai, en mai 2021, je me suis enfin mis vraiment à la course à pied. C'est-à-dire que je courais tous les jours, de petits temps, très progressivement. J'ai augmenté mon volume d'entraînement, je me suis jamais blessée. Maintenant, ça fait plus d'un an et demi que je me suis mis à la course à pied. Et aujourd'hui, je me vois clairement pas arrêter. Le CrossFit me manque un peu, mais pour moi, ça a été à la fois une façon, bah, la course à pied, la course nature, de faire mon deuil. Ça a été de manière progressive. Je me suis pas blessée, puis j'apprends tellement de choses. Parce que je pars de zéro, en fait. Je n'y connais rien. J'ai pas une biomécanique adaptée à ce sport. J'ai pas une foulée Instagrammable. J'ai pas. Donc, mais au final, l'audience que j'ai sur mes réseaux sociaux, c'est 80%, c'est des gens comme moi. Donc, j'adore partager mes petites aventures, j'adore partager les petits dossards que je mets à mon humble niveau, et puis je prends énormément de plaisir. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas arriver à la fin d'une course et d'être complètement décapitée, parce que faut que ça reste vraiment du plaisir, un challenge bien sûr, mais beaucoup beaucoup de plaisir.
Tu t'es prise au jeu de la compétition ces derniers mois, au-delà de la pratique purement plaisir. Tu as accroché de plus en plus de dossards sur des distances qui sont de plus en plus longues ou sur des défis très nouveaux comme peut l'être le Marathon des Sables. Est-ce que tu nourris une ambition particulière dont tu es en train de paver progressivement le chemin? Est-ce qu'on peut imaginer te voir à terme sur un ultra, par exemple? Est-ce que c'est la destination, c'est ça?
Bah, le terme, il va arriver plus vite que prévu. je fais beaucoup rire mes potes parce que je dis, je suis un peu la casquette verte de l'entraînement. Parce que, en ce moment, j'ai envie. En fait, c'est une distance qui m'attire, l'ultra. Aujourd'hui, j'ai clairement pas le niveau pour courir sur toute la distance d'un ultra, mais j'ai le niveau pour finir dans les barrières horaires. Donc, ça me challenge. Et puis, ça dépend où est-ce qu'on met les limites, où est-ce qu'on met le départ d'un ultra. Où est-ce que se situe, ouais, à partir de quand on peut dire que la distance est un ultra? je m'apprête à faire en fin de semaine un 65 km sur l'UTHC, Ultra Trail Arikana. Et un mois plus tard, je serai sur le Bourbon.
À La Réunion.
Donc ça va arriver plus vite que prévu. Mais là, je le vois vraiment comme une ultra randonnée.
Tu vas sortir avec les barrières, c'est ça l'idée. Enfin, l'idée, c'est d'aller au bout.
Exactement, mais c'est vrai que dans les 10 années qui, dans mes 10 années futures, j'aimerais faire un UTMB, par exemple. J'aimerais être capable de finir un UTMB. J'ai pas envie de faire un UTMB. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde hein, qui peuvent s'aligner sur des grandes compétitions. Mais comme je le dis, je le répète, c'est que j'ai pas envie d'arriver et d'être dégoûtée pendant des mois et des mois de la course à pied parce que je suis fracassée. Non. J'ai envie de m'entraîner en conséquence. J'ai envie d'être, faut que je sois patiente, mais je veux que ma progression, voilà, soit cool et que je me blesse pas. Et jusqu'à maintenant, ça a très bien fonctionné. Je prends du plaisir et puis j'espère prendre beaucoup de plaisir sur mes courses futures.
On est là aujourd'hui pour parler de ta participation à venir donc à l'UTHC que tu viens d'évoquer, l'Ultra Trail Arikana qui se tient au Québec. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a porté vers cette course? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller explorer les sentiers québécois que tu connais bien? Mais voilà, pourquoi cette course en particulier?
J'ai eu l'occasion de courir au Québec un trail d'hiver, un trail blanc. Mais là, j'avais envie de vraiment découvrir tous ces parcours hyper techniques. C'est qu'à chaque fois
que j'entends... C'est la réputation, effectivement, de la course. Ouais.
Exactement. C'est qu'à chaque fois que je parle avec un Québécois ou quelqu'un qui est parti courir là-bas, c'est attention, pas beaucoup de dénivelé, mais c'est hyper technique. Il n'y en a pas un qui ne m'a pas dit que c'était hyper technique. Quoi. C'était leur ligne de conduite de dire ça. Et non, ça m'attire parce que bah, déjà, de par la pratique de mon compagnon, mon compagnon Patrick. Qui est Patrick?
La pratique Bruelle,
ouais. C'est ça. Et puis non, j'ai envie de découvrir le Canada sur une autre saison. J'ai envie de découvrir l'engouement qu'ils ont pour ce sport parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus puissant que chez... Encore, c'est puissant, mais d'une autre façon encore chez nous. Donc non, j'ai envie de découvrir une pratique, mais au sein d'un pays que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte d'y être.
J'ai entendu que c'était un franc succès. D'ailleurs, il y a plus de 3000 inscrits sur les différentes courses, parce qu'il y en a un certain nombre. Toi, tu es donc sur le format 65. Tu nous en as parlé. Le départ, il est donné samedi 10 septembre au petit matin.
Oui.
Si ça te va, j'aimerais bien pouvoir te suivre sur cette course. Là, on en parle un peu avant. L'idée, c'est voilà, d'avoir des petits points de passage au fil de celle-ci. Là, je pense qu'il y a des difficultés d'accessibilité. Tu l'expliquais, le parcours est technique. Mais voilà, de pouvoir en tout cas enregistrer et puis vivre à tes côtés la course. Est-ce que t'es toujours partante? On en a parlé brièvement à la fin de l'UTMB, mais ça te dit que Course Épique te suive de près?
J'accepte sans hésitation la proposition, l'invitation. Pour moi, c'est vraiment un plaisir de partager, d'autant plus avec toi, parce que j'aime beaucoup ton travail. Mais j'aime beaucoup ce que tu fais, parce que tu fais vraiment avec passion et toujours beaucoup d'émotion aussi. Et puis, le fait de pouvoir suivre... un random, je trouve que c'est bien. Les gens peuvent s'identifier aussi. Suivre des athlètes, c'est très, très bien. Mais aujourd'hui, on est peut-être 90% de random et 10% d'athlètes. Donc, ce serait un plaisir de partager avec tout le monde mon aventure.
Ça va être un grand plaisir. Alix, il y a une dimension aussi solidaire et un engagement fort de la course pour la lutte contre la sclérose en plaques. J'imagine que c'est aussi une belle motivation pour toi et que c'est le type de sujet qui forcément te touche.
C'est vrai que c'est un sujet qui me touche. Alors, la sclérose en plaques ne me touche pas personnellement, mais si on a l'occasion, avec notre statut de personnes qui ont été médiatisées, on a de la voix pour ceux qui n'en ont pas. Il faut voir aussi les réseaux sociaux comme ça. Il y a beaucoup de points à revoir sur les réseaux sociaux, beaucoup de points négatifs, encore beaucoup de haters, etc. Mais Moi, j'aime dire que, et j'aime utiliser mes réseaux sociaux pour parler pour ceux qui n'ont pas assez de coffres, quoi. Donc, ce sera une occasion encore de faire la promotion pour un événement qui a du cœur et c'est assez important pour moi, oui.
En plus, cette édition, elle va être particulière parce que le cofondateur de l'événement, Sébastien Boivin, qui était lui-même atteint de sclérose en plaques, s'est éteint malheureusement là, le 19 août dernier. Donc, je pense qu'il y aura encore plus d'émotions sur la ligne de départ. Voilà, je pense qu'il y aura un hommage vibrant qui lui sera rendu. Et il y a les objectifs donc, de lever ouais, 125 000 $ sur cette année. Donc, c'est quand même des financements importants. Donc, voilà, si ça peut contribuer, faisons le savoir et parlons de l'UTHC. Alix, pour en revenir à toi, là aujourd'hui, tu sens dans quelle disposition physique et mentale tu es sortie grandie, je pense, quand même, de cet OCC et des apprentissages dont tu as parlé, avec une envie folle de bien faire. Est-ce que physiquement, tu es au diapason et les dispositions mentales sont les meilleures possibles?
Je crois que je ne peux pas avoir les feux plus ouverts, quoi. Je me suis beaucoup reposée. J'ai fait quelques footings, beaucoup de vélo, mais j'ai vraiment envie de courir. En fait, j'ai créé le manque suite à mon OCC. J'avais envie de m'y remettre, hein, bien évidemment, parce que j'étais pas tant maganée que ça, j'avais pas trop de courbatures. Mais il fallait que je crée quand même le manque pour me remettre et puis que je fasse aussi un état des lieux. Comment ça va? Comment vont mes jambes? Le système nerveux, surtout, parce que c'est surtout ça. Comment va mon estomac aussi, etc. Tout est ok et j'ai qu'une envie, c'est de courir et de me faire plaisir. Et puis, je sais pas pourquoi cette course, j'aime pas dire ça avant normalement, mais bon. Là, je le sens vraiment bien. Non, je le sens vraiment bien. Je me sens bien et j'ai envie de partager. J'ai envie de rencontrer les gens. J'ai envie d'y aller. Là, j'en peux plus. J'ai envie de partir.
J-1.
Voilà, j'ai envie d'être sur la ligne de départ. Et puis, mais il ne faut pas que je parte trop vite.
On ne s'emballe pas sur les 10 premiers kilomètres. Je pense que le terrain technique va peut-être te le rappeler par la force des choses.
Exactement. Et puis, non, tu sais quoi, le fait de savoir que je suis suivie aussi, ça va me permettre de me modérer. Parce que si j'arrive sur les points de ravitaillement et que je ne suis pas capable de t'échanger trois mots, ce serait stupide de ma part. Donc non, je la vois vraiment bien, cette course. J'en ai que des good vibes pour l'instant.
J'en suis convaincu aussi. Ce serait quoi la course rêvée pour toi? C'est quoi les ingrédients qu'il faudrait pour que ce soit un super souvenir pour toi? C'est les rencontres, c'est les paysages sans mettre plein les yeux, c'est physiquement quand même
J'aimerais bien voir des pousser. Ours.
Ah ouais? En photo ou sur ton parcours?
Non, parce que j'ai regardé dans le matériel obligatoire, il y a marqué matériel conseillé, une cloche à ours. Est-ce que tu te vois courir 65 km avec une cloche dans la poche? Je ne sais pas, mais... Donc apparemment, on pourrait croiser de joyeux compagnons. Mais... Non, ouais, j'ai hâte de découvrir le Québec sur cette saison. J'ai hâte de revoir des amis que j'ai pas vus, des rencontres que j'ai pas vues depuis de nombreux mois, et aussi de rencontrer les gens que j'ai connus grâce aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont issues de la course à pied que je n'ai jamais encore rencontrées en vrai, mais que par tel ou un tel, on se connaît, on s'échange deux trois mots, et j'ai hâte. Ça va être une grande fête encore.
Alix, tu vas avoir un petit partenaire d'épisode en la personne de Yvan Lheureux. Vous avez déjà eu l'occasion de vous rencontrer à l'occasion du Marathon des Sables. Yvan, lui, sera sur le 125 km. Est-ce que t'es content d'être en colloque avec lui chez Course Épique sur cet épisode UTHC?
Mais bien évidemment, j'aime les personnes qui se challengent, j'aime les personnes qui aiment partager leurs aventures, donc c'est un grand plaisir.
Il a eu des mots très tendres, en tout cas, à ton endroit quand je l'ai eu, puisque j'ai eu les mêmes échanges préalablement avec lui. Est-ce que tu as un petit mot, un petit encouragement à lui donner avant sa course et ses 125 km qui l'attendent?
Bah, on se retrouve à l'arrivée, bien évidemment, pour trinquer ensemble. Non, mais
en théorie, vous allez peut-être vous croiser. Lui va peut-être arriver au moment où tu pars, quelque chose comme ça.
J'osais pas le dire, mais il me semble ouais, qu'on se croise et j'espère. Si tout le monde va bien, j'espère qu'on se croisera dans de bonnes vibes. Et puis non, je souhaite de prendre beaucoup de fun et puis évidemment qu'on se verra à l'arrivée.
Merci beaucoup Alix. Je te donne rendez-vous dans quelques heures de l'autre côté de l'Atlantique pour vivre la suite de tes aventures au Québec, du côté du parc des Hautes-Gorges, point de départ de ta course. Et j'espère ensuite à mon grand fond qui en marquera l'arrivée. Merci beaucoup pour ta disponibilité. C'est vraiment toujours un grand plaisir d'échanger avec toi. Et puis rendez-vous dans quelques heures.
On se voit très vite, merci beaucoup Guillaume.
Salut Alix. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.